Le rédacteur du récit de Lazare a voulu avertir le lecteur chrétien, fais attention, sans quoi je te demande de croire. Dans ce nom, je te parle de la résurrection du Christ, c'est pas la résurrection de Lazare. Et je pense que c'est à l'honneur des églises chrétiennes qu'il n'y a pas de culte à Lazare. Après tout, il y a bien un culte à Lazare. Il n'y a pas une bouche à Lazare. De rire ça va. Bon. Et voilà, c'est ce que je voulais dire. Là je suis. Je vais très vite parce que ce n'est pas notre sujet. Non, mais je suis catégorique. La conscience, la manière dont la conscience chrétienne a perçu le message hébreu est une manière magique, païenne. Et je le répéterai parce que je n'ai pas autre chose à dire là-dessus. Ne confondez pas le registre chrétien et le registre juif. Le trait d'union de juifs et de chrétiens, c'est un problème de fraternité humaine. Mais il n'y a pas de compatibilité entre les théologies. Ça, je pense que c'est suffisamment clair. Et en tout cas, revenons à notre sujet. Dans le contenu du raisonnement de la Biochanan au Sadducéen, alors c'est ça que j'étais en train d'essayer d'expliquer tout à l'heure par l'image que vous avez dit. Il leur demande tout simplement d'admettre que pour un être exceptionnel, à Aaron à Cohen, c'est vraisemblable, la résurrection. Même ça, ils n'admettent pas. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui fait qu'Aaron à Cohen est exceptionnel? C'est qu'il est Cohen, mais eux ont rejeté la fonction de Cohen de l'identité d'Israël. Super? Est-ce que vous voulez qu'on reprenne tel ou tel détail? Non, là nous sommes en limoude de tout ce que vous avez à dire, dites-le. Même si je suis là, bon.
Je peux poser une question, pour qu'arriver en retard. Vous avez dit qu'un être exceptionnel comme Moïse permet d'insérer à toute l'humanité.
À tout Israël.
À tout Israël.
Et à travers Israël, toute l'humanité.
Et par ailleurs, vous dites, c'est un postulat que si nous nous réveillons tous les matins, ça prouve que ça fait partie de l'identité d'Israël, que la résurrection, le réveil est une résurrection. J'ai l'impression, je vais voir, que vous contredisez.
Non, d'abord, c'est pas un postulat, c'est une expérience. Mais montrez-moi en quoi il y a compagnie.
Le fait de dire que le réveil est une résurrection et inhérente à Israël n'a pas besoin d'un exemple d'un être exceptionnel, à mon sens, pris à ce niveau.
Bon.
Et vous vous dites par
exemple. Vous avez court-circuité deux paragraphes. Je vais les isoler. J'ai dit deux choses successivement. Et effectivement, il n'y a pas à faire de rapport sur ce point ponctuel très précis. Il y a une différence de mentalité entre la mentalité du Midrash, qui est la mentalité de la tradition juive, hébraïque, et la mentalité du mythe. Dans le mythe, on fait apparaître une figure privilégiée, exceptionnelle, d'être d'exception, qui devient mythique en cela, que l'on charge de tout ce qui concerne les hommes. Et, si vous voulez, l'être exemplaire, qui va devenir par privilège l'exception. Et puis, ça disqualifie tout le reste. Ensuite, par la foi, une église comme l'église chrétienne, par une opération que nous continuons à penser comme magique, récupère par communion le salut de l'individu, mais dans le salut de l'être exceptionnel. Ça continue à être pour nous du paganisme. Tandis que la mentalité du Midrash, c'est de nous rappeler l'histoire, la destinée des êtres d'exception, et de nous dire qu'en eux-mêmes, ils ne sont rien, sinon un exemplaire dans l'exemplarité de l'identité humaine. Moïse, c'est-à-dire Israël. Tandis que dans le christianisme, Israël, c'est-à-dire le Christ. Et c'est ça la grande différence. Je pense que c'est clair. De Moïse, nous n'avons pas fait un Christ, ni un pharaon, dans le sens de la religion égyptienne, etc. Et la tradition hébraïque a été très vigilante à évacuer tout soupçon de culte de la personnalité de Moïse. Plus à risquer la gratitude. Je vous en donne un exemple que vous connaissez. On ne cite pas le nom de Moïse dans la Gada de Pessah, pour que personne ne risque de penser que c'est lui qui nous a sorti des livres. Regardez-le nous, dans la Gada de Pessah. On ne doit pas savoir où il est enterré, pour ne pas en faire un saint sépulcre, etc. Voilà, c'est tout ça dont je vous parle. Et alors voilà, je vous permettez de reprendre juste la fin de ce moment-là. Maintenant, pour le deuxième point, je dis ceci. C'est pas parce que je suis juif que tous les matins, j'ai expérience de la... Tous les hommes, tout qui se réveille, comme dirait les Belges, tout qui se réveille le matin a expérience de la résurrection des morts. Et nous n'avons pas besoin d'un exemplaire de processus magique pour en être assuré. Ça, c'est le paganisme. Bon, que ces populations aient eu besoin de cela, pour croire en cela,
tant mieux.
Pourquoi pas? Mais c'est pas notre affaire. Voilà ce que j'ai fait un peu allusion à cela hier avant hier. Que le monde chrétien, le monde musulman, et peut-être d'autres, croient dans cette croyance hébraïque, dans cette expérience hébraïque, qu'il y a Triad Améthyste, qu'ils le croient à travers les messages qui leur convenaient, c'est très bien, mais c'est leur affaire. Et voilà comment nous, et là je vous cite la Chassidoute, voilà que, mais c'est déjà, je prends la voix, hein, voilà comment nous les Juifs, nous savons cela, en comprenant qu'est-ce que ça veut dire se réveiller. En comprenant qu'est-ce que ça veut dire que notre identité est d'être mortel et que cependant nous vivons. Chaque instant de vie est un miracle de résurrection des morts. Alors, nous avons expérimenté cela et nous savons que ça va de soi. C'est cela, l'intuition hébraïque, bien sûr qu'il y a Triad Améthyste. Celui qui n'arrive pas à le penser par son intelligence, c'est qu'il est déconnecté de l'identité hébraïque. Alors on discute avec lui jusqu'à ce qu'on essaye de le sauver, ça c'est un terme chrétien, mais de le convaincre, c'est ce qu'il essaie de faire ici à Dunhanan. Et on emploie toutes les stratégies possibles. Mais finalement, un jour, on est obligé de prendre acte que ce qui empêche son intelligence de penser un tel dogme, vous m'excusez du terme, c'est son identité, c'est pas son intelligence. Parce que cette évidence ne vient pas de l'intelligence. L'intelligence est contre. L'intelligence est scientifique. Et elle est empirique. Et l'intelligence voit les gens mourir et jamais ressusciter. Et c'est l'évidence de l'identité hébraïque qui informe notre intelligence de juif. Ça, c'est la tradition pharisienne. Et alors, pendant très longtemps, les pharisiens ont accepté les sadducéens dans la société d'Israël. D'autant plus qu'ils étaient au pouvoir, les sadducéens. Et d'une certaine manière, on ne pouvait pas faire autrement. Ils étaient imposés par les Grecs. Voilà. Mais on a fini par prendre acte qu'ils vont quitter cet élan central, pour réemployer le terme bergsonien, cet élan vital qui fait Israël, et qu'ils vont entrer dans une impasse, en donnant une belle fleur, le sadducéisme, et une fleur morte. En la haine, relève la roi. Et voilà ce qui se passe. Je crois qu'on a atteint ici un point de l'analyse extrêmement important. Je reviens à un des postulats du début de l'étude avant-hier. C'est que ce qui, pour les croyants des autres religions dites bibliques, est une affaire de croyance, pour nous les Hébreux, c'est une affaire d'existence. Nous sommes ainsi. Et alors notre pensée, c'est dire ce que nous sommes. Mais ce n'est pas parce que nous croyons cela autrement que nous sommes Hébreux. C'est la vérité. Et avec la clause universaliste de Pessah, qu'on dirait une révélation. Quiconque a faim, vient et mange le céder de Pessah. C'est-à-dire que n'importe qui peut entrer dans la maison du bon Dieu, à condition qu'il sache où il rentre, dans la maison des Hébreux. Je pense que c'est clair. Voilà donc pour éclairer votre inquiétude.
Je peux me permettre de fixer la foi en somme d'être exceptionnel. Mais quel exemple ? Et ça n'est pas le fondement de la connaissance.
Exactement. Et lorsqu'on reprend comme fondement de la connaissance, la pensée mythique commence. Et l'histoire de Moïse est à réécrire, et pas seulement de ce point de vue-là, mais de tous les points de vue. Lorsqu'on arrivera à comprendre quel vraiment exceptionnel a été Moïse, celui qui a fait qu'une nation accepte la loi morale comme constitution. C'est qu'il y a un ridouche monumental dans l'histoire de l'humanité. C'est un être que n'importe quel non-juif devait idolâtrer. Mais Dafka, les juifs, non, parce qu'ils sont hébreux. C'est vraiment un être exceptionnel quand on sait qui est, qu'est-ce que c'est Torah Moshe. Le deuxième étant Isaïe. Et quand on sait qu'est-ce que c'est la parole d'Isaïe. Dans n'importe quelle société terrienne, si j'ose dire, Isaïe, on n'en aurait fait pas un saint, on aurait fait un dieu de Dieu, c'est quelle trinité. Isaïe, je parle du prophète Isaïe, Chariaouane. Mais pour les Hébreux, eh bien, c'est un parmi le peuple, un parmi la nation. On n'en fait pas un Dieu. On n'a pas besoin d'une résurrection d'Isaïe, si j'ose dire, qui a eu un sort pire que la crucifixion, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire d'Isaïe, ou de Rabbi Akiva, si vous voulez. On n'a pas besoin de son histoire mythique pour savoir qu'il y a Triad Améthyste. On fonctionne comme Hébreux.
Okay. Quelle place accordez-vous à la vision d'Ézéchiel dans votre raisonnement?
À quoi vous pensez?
Puisque vous dites qu'il n'y a pas de fondement matériel à une résurrection, alors quelle est la valeur de l'image de la vision d'Ézéchiel?
Ah, la vision d'Ézéchiel de la résurrection, c'est une prophétie. C'est une prophétie qui va être citée d'ailleurs dans la suite. Je ne sais pas si c'est demain ou après-demain ou dans 6 mois qu'on verra la suite, mais elle est citée dans la suite. Si vous avez le texte, à un certain moment, on cite la vision d'Ézéchiel. Et les Sadducéens répondent, mais c'est peut-être déjà arrivé. Peut-être que Ézéchiel a prophétisé pour une certaine génération d'Israël qui était des ossements desséchés dans le désert et l'esprit a soufflé, ils ont ressuscité, mais ils sont morts. Peut-être c'est déjà arrivé. Peut-être c'est autre chose. Peut-être c'est une façon de parler dans notre vocabulaire sociologique pour dire le peuple juif était comme mort, il ressuscite. Résurrection de l'État d'Israël. Mais c'est pas ça dont la Mishnah parle. Elle parle de la résurrection de Kriyat HaMetim, le nefesh individuel qui revient par la porte individuelle pour entrer dans Olam HaBa. Elle parle pas de cette manière philosophique d'exprimer les choses. Toi, tu es mortel, mais le souvenir de toi est immortel. C'est ça la résurrection des morts. Non, ça c'est du sadducéisme dilué. Et ça sera rejeté. Bon, là nous sommes sur le premier exemple, la première illustration, le premier point. Ça va, Rabbi Yochanan tente une perche au sadducéen, mais n'admettez-vous pas au moins que pour Aaron, d'après ce qu'il y a dans le verset, il y aura résurrection. Ils n'admettent pas. Pourquoi? D'abord parce qu'ils vont lire le verset autrement, et nous aussi on va le lire autrement. Mais parce qu'ils n'acceptent pas le caractère d'exemplarité de Aaron comme Cohen. Pour eux, la fonction sacerdotale est une fonction sociologique. Ce n'est pas du tout une fonction religieuse. C'est clair? Bon, alors on avance. Alors, sans transition, Deber Rabbi Ishmael, à l'école de Rabbi Ishmael, Tana, on l'a enseigné. Les Aaron, Ke Aaron. Voilà ce qu'a voulu dire le verset, notre verset de Bemidbar. Et vous le donnerez, et vous donnerez la terouma à Aaron à Cohen. Voilà ce qu'elle veut dire. Ce les Aaron, il faut le dire, Ke Aaron. Ça veut dire, vous ne donnerez la terouma qu'à un Cohen qui est digne de Aaron, qu'à un Cohen qui est comme Aaron. Et le verset revient dans son pshat. Ça veut dire, il y a eu une tentative de Rabbi Yochanan d'essayer de récupérer les sadducéens. Elle n'a pas réussi. Mais la Gemara profite tout de suite pour le dire, mais attention, voilà le sens du verset. C'est ce qu'on a enseigné à l'école de Rabbi Ishmael. C'est quoi? Si vous voulez, à l'école de Rabbi Ishmael, on vous dira ce que j'ai dit aujourd'hui. On n'a pas besoin de la référence à l'exemplarité d'Aaron pour savoir qu'est-ce qu'elle avait dit. Nous, les Juifs, on n'a pas besoin de ce raisonnement-là. Et dans le verset, voilà ce qu'il veut dire. C'est clair? Deber Rabbi Ishmael Tana, les Aaron ke Aaron, ma Aaron haver, de même que Aaron était haver. Haver, ça veut dire compagnon d'étude. Haver. Lorsque les élèves étudient ensemble, ils étudient le Havruta. Un Haver, ça veut dire quelqu'un qui partage l'étude. Le sens général du terme de Haver, c'est compagnon de vie. On partage tout. Mais l'essentiel du comportement étant par rapport à la Torah, on appelle quelqu'un de Haver, quelqu'un qui est compagnon de vie. Deuxième sens qui est utilisé ici, Aaron, lui, était le Haver de qui? Aaron était le haver de qui en Torah? De Moshe Rabbeinu. Hein? Ça veut dire, de même que Aaron était Talmid Chacham, haver ça veut dire Talmid Chacham ici, de même vous donnerez la terouma qu'à un Kohen Talmid Chacham. Donc on a changé de régime. Maintenant on s'occupe du problème de la juridictionnelle de la terouma. On a abandonné cette tentative qui a mené à l'impasse du dialogue avec les sadducéens. Je vous lis donc pour aujourd'hui encore tout ce paragraphe. Demain, nous verrons une deuxième tentative des pharisiens avec un tout autre verset. Alors, lisons cela maintenant pour lui-même. Ma Aaron haver af banav haverim. De même qu'Aaron était haver, de même, ses enfants, ses descendants doivent être son haverim. Doivent être haverim. C'est-à-dire, on entendra Cohen à qui on donne la Terouma qu'un Cohen Talmid Chacham. C'est-à-dire, tout ce processus de la déculpabilisation de la récolte par le prélèvement n'a de sens que si c'est donné à un homme qui est vraiment voué à la Torah. Si c'est donné à un ignorant, échec. À un ignorant de la Torah. C'est clair? Bon. Alors je continue. Amar Rabbi Shmuel Bar Nachmani. Rabbi Shmuel Bar Nachmani a enseigné à ce sujet. Amar Rabbi Yonatan, au nom de Rabbi Yonatan, Minaïn She'el Notin Teruma Le Kohen Amaretz, d'où savons-nous qu'on ne donne pas la Terouma à un Kohen ignorant, c'est-à-dire un Cohen qui n'est pas capable d'être Cohen. Et vous comprenez quel est le problème. Tout ce qui descend de Aaron s'appelle Cohen. Mais il y a deux catégories. Il y a le Cohen Haver, celui qui est Cohen par droit de naissance, mais aussi par authenticité, si vous voulez, et il y a le Cohen Amare. Le Cohen Amare aurait droit à la Trouma, puisqu'il est Cohen. Mais la législation talmudique l'interdit. On ne donne pas la Trouma à un Cohen Amare. Et je crois pouvoir dire, ça c'est vraiment une indication très personnelle, qu'il voulait dire ici dans le texte, à un Cohen sadducéen. Vous comprenez c'est-à-dire, c'est étonnant que nous avons. Il existe des grands prêtres ignorants. Eh bien oui, il existe des grands prêtres ignorants. C'est ça le sadducéen. Non, parce que si vous rencontrez un grand prêtre ignorant, ne soyez pas étonné. Ça existe. Ça existe. Et vous savez, la Talmud dit que lorsque le grand prêtre sortait du temple après l'expiation de Mincha, et vous savez que Mincha de Kippour, c'est quelque chose. On fait 73. Quand le grand prêtre sortait du temple sain et sauf, parce que un des signes qu'il avait réalisé, qu'il avait réussi sa tâche de Cohen de toute la nation, c'est qu'il sortait vivant du jour de Kippour du Saint des Saints. Eh bien, alors on lui faisait une grande fête, et le peuple entier l'accompagnait dans sa maison, et le lendemain de Kippour, il y avait une grande fête qui s'appelle Simchat Kohen. Alors le Talmud raconte que Shmaya Vertalion, qui descendait de convertir, passait dans la rue, au moment où le peuple accompagnait le grand prêtre à la sortie du temple pour entrer chez lui, et que le peuple a quitté d'accompagner le grand prêtre pour accompagner Shmaya Vertalion. C'est là qu'on apprend qu'un guerre Tamil Chacham passe avant un grand prêtre ignorant, c'est-à-dire ça du sait.
C'est ça, le Tamil Chacham Mamzer, les poèmes de...
Oui, ça c'est encore autre. C'est encore autre. Oui. C'est où?
Est-ce qu'on ne peut pas trouver comme inévitable qu'il y ait des grands prêtres ignorants dès l'instant où on a donné la prêtrise à une tribu qui ressemble.
Oui, alors voilà. C'est-à-dire qu'il y a deux critères. C'est très clair comme question. Il y a d'abord un critère généalogique, d'hérédité. Oui, mais on apprend qu'il ne suffit pas. Et à l'intérieur de ce critère d'hérédité, il y a un critère d'authenticité. Il y a toute une législation, quels sont les défauts qui rendent. Comment dit-on en français?
Inapte.
Quels sont les défauts qui rendent un Cohen inapte au service, bien qu'il soit de la descendance d'un. Là, il y avait une question de pouvoir politique. Enfin, c'est une secte politique, idéologique, politique, les sadducéens, qui ont imposé un pouvoir sacerdotal de Kohanim ignorant. Enfin, de Kohanim ignorant, c'est-à-dire non relié à la tradition authentique. Ils avaient leur propre école, leur propre philosophie, leur propre science, leur propre connaissance. Mais nous sommes privilégiés maintenant pour juger cette époque, parce que nous savons qu'ils ont disparu. Et par rapport à l'éternité de l'histoire d'Israël, le fait que les Sadducéens aient disparu, ça montre que dès l'origine, ils étaient déconnectés de l'identité historique, bien qu'ils s'étaient érigés en grande synagogue, si j'ose dire. C'est pourquoi je vous disais, enfin très rapidement au premier cours, le problème de notre génération, c'est que toutes ces tendances, il y en a d'autres, il y a les Esséniens, il y a ceux qui étaient les Esséniens, il y a toutes les combinaisons possibles et imaginables, il y a les problèmes nouveaux des formes d'identité juive dans le temps contemporain. Nous sommes devant un éventail pulvérisé sociologiquement de définition d'identité possible. Notre question, c'est où sont les pharisiens? Il est urgent de se mettre avec eux. Parce que c'est par eux que... Les pharisiens, vous entendez ce que je veux dire? Ceux de la tradition talmudique. Parce que c'est par eux que passe l'histoire d'Israël. Toutes les autres dimensions ont mené aux impasses, dont celle. Et dans trois paragraphes, on parlera du dialogue sur ce sujet avec les judéo-chrétiens. Il faut bien savoir une chose, c'est que bien que l'Église existe, bien que la chrétienté existe, les judéo-chrétiens n'existent plus. Et depuis le début. Ça aussi, c'était une impasse. J'ai connu, tant qu'il était vivant, le cardinal Danielou, qui lui a tenté toute sa vie de ressusciter cela, le judéo-christianisme. Mais bon, c'était une tentative sporadique et qui s'est terminée, comme vous le savez, avec la mort du cardinal Danielou, mais même si elle est reprise par d'autres, ça veut dire que c'est une impasse comme telle, ça n'existe pas. La patience de l'existence fait que ça fait semblant d'exister quelque temps, mais c'est un anormal tel que ça disparaît. Et de la même manière pour la position sadducéenne. On ne peut pas être de la religion de la Torah, comme elle voulait être les sadducéens, à leur manière, sans être de la nation d'Israël. C'est pas possible. Ça c'est le pharisaïsme. Bien, continuez. Vous savez très bien d'ailleurs que lorsque un non-juif est converti au judaïsme, avant que d'être converti à la religion à proprement parler, il est converti à la nation d'Israël, dont la religion est judaïque. Je pense que c'est clair pour tout le monde. C'est la halakha qui est ainsi. Alors, nous sommes avec Rabbi Shmuel Bar Nachmani, au nom de Rabbi Yonatan, qui dit « D'où savons-nous qu'on ne doit pas donner la Trouma à un Kohen Amare ?» Chez Neymar. D'après un verset qui dit, vous trouvez la référence dans le commentaire sur Amar, « Vayomer la'am, les Yoshvé Yerushalayim, la tête menat à Kohanim Galvihim, les Ma'an Yachézekou Vetorat Hashem. » Il a été donné consigne au peuple et aux habitants de Jérusalem de donner la part des prêtres et des lévites afin qu'ils renforcent, qu'ils se renforcent d'ailleurs, Yachézekou, qui s'affermissent en la Torah de Dieu. « Kola Mahazik Vetorat Hashem, Yeshlo Menat » Tout celui qui est Mahazik Vetorah, comment traduit
la Torah.
Oui, d'accord, très bien, j'achète. Donc, tout celui qui est renforcé de la Torah, il a la part de la Trouma, celui qui ne l'est pas, n'en aura pas la part. Amar Abacha Barada, Amar Abiyouda. Et voilà un autre enseignement qui avance dans la même ligne. Donc on a enseigné au nom de Barada, et au nom de Rabbi Yehuda, qu'on a noté une trouma le Kohen Amare, tout celui qui donne la trouma à un prêtre ignorant, qui est ilou notna lifne ari. C'est comme s'il le donnait devant un lion. Imaginez l'image, on apporte sa pitance au lion. Et Mahari s'appelle Dores, de même que le lion, il y a doute, est-ce qu'il va piétiner le ochel et manger après de la nourriture piétinée, c'est-à-dire salie, rendue impure. Ça fait qu'elle odorait le rochel. Ou bien, sans le piétiner, il va le manger. C'est-à-dire, est-ce que l'objectif de la manducation de la terouma, si vous me permettez l'exception, l'expression, je veux dire le fait de manger la trouma pour le Kohen et tout ce que ça représente pour le salut moral de la nation, est-ce que ça se prend en pureté ou en impureté? Alors voilà à quoi ça ressemble. Vous donnez à manger au lion, vous ne savez pas à l'avance s'il va pas rendre d'abord sa pitance impure et après la manger, ou s'il va la manger en état de sûreté. Ça fait par Kohen Amaret, ainsi le Kohen ignorant, doute qu'il la mange la Trouma en pureté, doute qu'il la mange en impureté. Rabbi Yochanan Amar, Av Gorem Lomita, et même, ça le condamne à mort, Sheneema ou Metu, Bo qui est Khalelu, celui qui est cause de cette profanation et passible de mort. Et en fin de compte, enseignement encore de l'école de Rabbi Eliezer ben Yaakov, où on enseigne, Af Masilo Avonashma, et ça lui donne une faute supplémentaire, chez Neymar, mais ici, l'Otam, Avonashma, l'Oklam et Kochet. Bon, la fin, s'il n'est pas directement reliée à notre sujet, c'est le déploiement de cette nouvelle lecture, maintenant qu'on n'a plus utilisé le verset pour convaincre les Sadducéens de la fière d'Amétim à travers l'exemplarité de Aaron à Cohen. Alors la Gemara nous dit, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, ce verset? Bien sûr que l'intention du verset n'était pas d'enseigner la résurrection des morts, mais de nous dire que le Kohen à qui on donnera la Trouma doit être de la dignité d'Aaron. De façon plus nista, kabbaliste, si vous voulez. Alors là, il y avait ce que tu avais dit tout à l'heure concernant la projection vers le futur, et que je vais un peu élargir, mais c'est autre chose que notre raisonnement. Et c'est ceci, c'est que et lorsque arrive le temps de la résurrection de tous, en ce temps-là, c'est de Moïse lui-même qu'on recevra l'enseignement de la Torah, c'est à Aaron lui-même qu'on donnera la Trouma, c'est Abraham lui-même qui sera l'engendreur, c'est David lui-même qui sera le roi. Est-ce que c'est clair ce que je dis? J'ai dit de façon un peu midrashique, mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de délégation d'identité à la descendance, qu'il s'agit vraiment de résurrection. Alors là, j'élargis un peu, mais c'était une autre dimension du problème. La Kabbalah enseigne qu'à chaque génération, ils sont présents. Mais au niveau et à l'envergure de la génération. Et bien entendu, clandestin, camouflé et irreconnaissable. qu'à chaque génération, il y a Moshe Shebador, Aaron Shebador, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Myriam, Léa, Sarah, Rebecca, ils sont tous là. C'est notre carte d'identité, cette histoire. Et donc, à chaque génération, ils sont là, mais à l'envergure de notre génération. C'est une autre dimension que la triadamétique. La triadamétique, c'est la ressuscitation avec dévoilement, c'est moi. C'est moi et pas quelqu'un d'autre. Et pas du tout pas d'élévation d'identité. Dans cette catégorie-là, la destinée humaine reprend un sens malgré la mort biologique. Dans toute autre catégorie, c'est des façons de parler. Donc, voilà donc elle, la portée du corps. Alors voilà, voilà quelle était la première thèse. De définir la triadamétique en tant que Cohen. Première hypothèse, en tant que Cohen, peut-être la donnée vraisemblable, vous rappelez donc le raisonnement de base, est-ce que les Sadducéens eux-mêmes n'admettront pas l'exemplarité telle que Aaron peut au moins pour lui les résurrections personnelles? Non, ils ne l'admettent pas. Parce que s'ils l'admettaient, eh bien ils l'admettraient pour tous, d'après la description que je m'ai faite tout à l'heure. Il me semble retrouver dans ma mémoire que ça se trouve, un texte analogue se trouve dans la littérature française. Quel était le grand homme de lettres du Moyen-Âge qui avait perdu sa fille, Malherbe?
Malherbe.
Je crois qu'il y a un texte comme ça chez Malherbe. Il dit qu'il s'est converti à la foi quand il a perdu sa fille, qu'il aimait terriblement. Parce qu'au fond, n'importe qui pouvait mourir, il n'y a pas à croire à la résurrection des morts. Mais que sa fille meure, ce n'est pas possible. Ça lui a fait croire que la résurrection des morts est aussi Victor Hugo. Non, Victor Hugo, c'est la robe mâchoire.
Il y a un problème grave, là. Parce qu'il comprend tout à fait l'idée moderne de convertisme.
Plus fort. L'idée moderne.
La résurrection des morts, c'est quelque part, comprend complètement l'idée qu'on se fait d'une progression. Il y a un problème entre progression et...
Voilà,
chacun est à sa place.
Très bien, très bien. Alors, c'est deux choses différentes. C'est-à-dire, voilà, il y a deux processus. Il y a le processus des engendrements. Et à travers les engendrements, il y a une progression avec des hauts et des bas. Enfin, il y a une progression et qui fait que un projet d'identité à l'origine de chaque lignée est mis en jeu dans l'histoire du monde. Et à l'échelle générale de l'histoire de l'humanité, Adam est à l'origine et à l'achèvement, à l'aboutissement, le Ben Adam. Pendant le cours de cette progression, des individus, des néphastos ont existé. Alors il y a les deux choses. D'une part, l'atteinte de la génération du Messie, la génération messianique qui entre vivante. Et d'autre part, la résurrection pour tous les autres. Il y a deux choses différentes, c'est clair ? Et quand l'humanité aura réussi à engendrer le Ben Adam, alors tous auront réussi et reviennent. La Gemara plus loin explique qu'ils ressuscitent dans l'état où ils étaient pour qu'on les reconnaisse et ensuite ils se transfigurent au niveau du Ben Adam. La Gemara le dit de façon très précise, ils ressuscitent avec leurs défauts et leurs mauvais caractères pour qu'on sache que c'est bien eux et qu'ils sachent que c'est bien eux. Et c'est bien le fond de notre sujet. Et ensuite se produit le processus de transfiguration. Et ce sont deux choses différentes. Alors, comment cela est possible, même si nous ne sommes pas capables, on l'étudie dans la Kabbalah, comment c'est possible ça, opérationnellement, si vous, même si nous ne sommes pas capables de l'imaginer, c'est de cela dont il est parlé. Vous savez, quand les choses ne sont pas encore, quand les choses qui sont attendues ne sont pas encore arrivées, on ne sait pas comment ça fonctionne. Mais quand elles sont arrivées, on dit, ah c'est si simple que ça. Je peux simplement vous donner une image de cela, simplement de mon expérience personnelle dans mes études de psychologie. Il y a très longtemps, lorsque nous étudions l'unité du moi, chaque homme, à l'échelle de sa vie, traverse une infinité d'instants. Et chacun de ces infinités d'instants, il est lui-même différent de l'autre instant. Et pourtant, il y a permanence du moi. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas plus difficile que de penser cela. En fait, c'est pas moins difficile que de penser cela. Comment, bien qu'il y ait là des néphastos différentes, il y ait cependant permanence du moi à l'échelle de la mise en jeu dans chaque lignée. Bon, quand ça arrivera, on verra comment ça se passe. mais il n'y a pas de difficulté notionnelle plus grande que celle de la permanence du moi psychologique à l'échelle d'une vie humaine unique. Je pense que c'est ça. Et puis quand ça arrivera, nous verrons bien. Mais c'est en ça que la camarade dit que nous croyons nous les aider. C'est ça qui va l'élucider.
Et le vénérable, vous voulez situer du point de vue historique
à l'achèvement des engendrements qui mènent à lui. C'est-à-dire, bon là vous aurez un grand problème, soit selon la loi des temps, à l'achèvement des 6000 ans d'histoire, soit si l'on mérite un peu avant. Mais comme nous sommes déjà en 5700 et quelques, eh bien on est tout prêt pour préparer Shabbat. Bien, alors écoutez, donc alors demain, le programme est fait.